Merci d'écouter Radio Alpha, la radio lusophone en France. Vous écoutez plus précisément son Mac d'info, l'Alpha 10-13. Je suis Didier Caramalo et je suis maintenant en compagnie d'Éric Mendès. Salut Éric.
Bonjour, bonjour Didier.
Tout va bien ?
Très très bien, et toi ?
Très bien, nos auditeurs et auditrices te connaissent très bien puisque tu es l'un de nos journalistes sportifs. Tu interviens tous les lundis soirs dans le magazine sportif de Radio Alpha, Tribune Sportive, en compagnie de Manuel Olsandre. Je te remercie dans un premier temps d'avoir pris ton temps pour venir répondre à quelques questions à propos justement du match Portugal-Pays de Galles demain à Nice, 17h45, le premier match du Portugal dans ce mondial de rugby qui a commencé il y a un petit peu plus d'une semaine. Première question, c'est très simple, que peut-on attendre du Portugal dans ce mondial, Eric ?
Bon, c'est simple et je veux pas changer le discours, de surtout qu'on en entend du côté de Patrice Giscard, le sélectionneur, ou des joueurs. Déjà, être présent au mondial en soi, c'est déjà une belle opportunité, en tout cas de vivre l'événement dans son entièreté, dans cette envie qu'a le Portugal, en tout cas de vouloir faire grandir le rugby dans un pays de football. Et déjà en soi, c'est une belle fête et c'est en soi déjà une finalité. Mais maintenant, ils restent quand même, comme ils sont des compétiteurs, cette envie, cette ambition peut-être d'aller accrocher cette première victoire qui serait vraiment historique, qui est vraiment un exploit. Surtout quand on regarde le groupe avec l'Australie, Fidji, Géorgie, Pays de Galles. Le Portugal est presque déjà annoncé comme une victime pour ces adversaires-là, mais ils ont en soi quand même une expérience, une envie et peut-être une capacité aussi à se surpasser pour peut-être aller bousculer les idées déjà préconçues de certains adversaires pour pouvoir justement aller chercher cette victoire qui serait quelque chose d'historique, au moins tout du moins aussi accrocher leurs adversaires et pas tomber comme ils l'ont fait lors de la première participation avec une victoire de plus de 100 points face aux All Blacks. Mais voilà, c'est une autre histoire. Il y a des joueurs d'expérience, des joueurs qui connaissent aussi le monde professionnel. Il n'y a pas que des amateurs, il y a du talent aussi. Donc Patrice Légis qui a fait un groupe talentueux et conquérant, qui a de l'ambition en tout cas de briller et de tout donner sur le terrain.
Toutes les personnes à qui j'ai posé cette question, Eric, que ce soit le président de la Fédération portugaise de rugby, l'entraîneur, les joueurs, d'anciens joueurs, des journalistes, tout le monde me dit que rêver ne sert à rien. On va d'ailleurs écouter, puisque tu le citais, Patrice Lagisquet. Pour lui, voilà l'objectif du Portugal dans ce mondial.
Ça va être d'essayer d'exister comme aujourd'hui, quoi, de rivaliser le plus longtemps possible et peut-être sur un match réussir un exploit, mais ça va être très difficile. Il faut se rendre compte qu'on va avoir une poule très relevée parce qu'on a quatre équipes qui sont 8e, 9e, 10e et 11e au classement mondial, qui vont batailler ferme. Les Fidji viennent de réaliser un exploit en gagnant en Angleterre. La Géorgie a battu l'Italie et le Pays de Galles il y a l'année dernière. Donc ça va être, l'Australie, c'est toujours quand même une équipe très très solide. On joue australien, on se rend compte du réservoir de cette équipe-là. Et à côté de ça, voilà, et le Pays de Galles. On ne peut jamais penser que le Pays de Galles, c'est quand même le dernier demi-finaliste, c'est un demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde.
C'était Patrice Lagisquet fin août, suite au match Portugal-Australie A, ici à Massy, qui était le dernier match de préparation avant le Mondial. Patrice Lagisquet qui nous annonce donc, c'est quand même l'entraîneur d'Ouzlouch, et qui nous dit, l'objectif, c'est d'exister.
Oui, c'est normal, parce qu'il connaît, c'est quand même un homme d'expérience, c'est un homme qui a ce vécu-là d'avoir connu la Coupe du Monde grâce à l'équipe de France et d'avoir gagné des titres de champion de France. Donc c'est vraiment un homme d'une grande expérience et d'une grande analyse. Sur ça, il est très pragmatique. Et c'est pour ça, lui, il ne veut pas non plus annoncer de fausses perspectives, en tout cas, qu'il, pour lui, il juge inatteignable. Mais aussi, en cela, en tout cas, ça c'est le discours officiel. Mais je sais qu'en fin de compte, pour notamment avoir traîné du côté de Jamor, pour avoir croisé ce groupe-là, on sent que c'est quand même un groupe qui a... Voilà, maintenant qu'ils sont présents, ils veulent exister, ils veulent montrer en tout cas un visage, pas seulement être présent et te dire voilà, c'est bon, on est à la Coupe du Monde, on sait qu'il y a des joueurs, pour eux c'est presque la fin de la carrière, je pense notamment à Mike Tyler, mais c'est pour ça, pour eux c'est tout bonus ce qui va se présenter face à eux et pourquoi pas croire justement à un exploit et je pense que mis bout à bout comme ça, il y a des indices sur toutes les équipes qui ont déjà joué, qui ont déjà débuté leur mondial, je pense notamment au Chili ou comme l'Uruguay hier avec la France. Il y a cette capacité-là peut-être de se transcender sur un match et un événement pour peut-être aussi prétendre, en tout cas, sortir avec les honneurs comme ça a été le cas hier, notamment l'Uruguay face à la France.
Oui, plusieurs choses à aborder dans ce que tu viens de dire. D'abord, le statut des petites équipes dans le rugby. Effectivement, hier, l'Uruguay a posé des difficultés à la France. Ça a été longtemps à 20-12. C'était une victoire dans la douleur hier. Donc les petits aussi peuvent se battre dans le rugby, peuvent créer des surprises.
C'est ça, c'est que maintenant... c'est plus comme avant. Avant, c'est vrai qu'il y avait vraiment un fossé entre les grosses nations et le reste. Mais depuis quelques années, et le Portugal en est le parfait exemple, depuis sa première participation, c'est il y a des joueurs pros et des joueurs en tout cas qui évoluent dans des clubs. Je prends encore le cas de Mike Tiger qui était à Perpignan dans le top 14, et il y a d'autres joueurs aussi bien comme Anthony Alves qui est à Mont-de-Marsan, ou enfin pas faire toute la liste de ceux qui sont présents en tout cas dans la sélection et qui connaissent la dureté du monde pro et qui ont déjà ça en eux. Donc ils ont cette capacité là aussi d'aller pouvoir titiller peut-être. Une équipe comme le Pays de Galles qui sort comme une période de doute, qui a quand même laissé pas mal de cadres au repos pour ce match. Donc, notamment, je pense à Dan Millar qui est un des maîtres à jouer de l'équipe galloise. Donc, peut-être surprendre, oui, peut-être surprendre et profiter justement de leur fraîcheur actuelle, comme ça va être leur premier match. Alors que le Pays de Galles sort quand même d'un match compliqué face au Fidji, où ils ont dû batailler jusqu'à la fin pour éviter justement que le Fidji crée quelque part la première surprise. Mais le Portugal peut peut-être bénéficier là justement de aussi le côté inconnu, parce que ils n'ont pas l'habitude de se croiser, ils savent pas trop justement les forces en présence de l'un et de l'autre. Et alors que le Portugal, il y a quand même pour les suivre un peu plus maintenant depuis quelques années, il y a quand même du talent avec Marta, avec Stolki. Enfin, il y a des joueurs qui sont capables aussi de faire la différence n'importe quel moment. Et moi, ce que j'aime bien dans le Portugal, ils l'ont prouvé notamment en se qualifiant pour cette Coupe du Monde, c'est qu'ils ne lâchent rien jusqu'au bout. Et je pense que ça va être une donnée favorable à eux et qui va pouvoir, en tout cas, prouver que même jusqu'à la 80e minute, ils seront en capacité peut-être de tout donner pour au moins marquer et gagner des points.
Oui, revenons sur le Pays de Galles qui est l'adversaire du coup demain du Portugal. Comme tu le disais, le Pays de Galles, il a tremblé complètement dans les dernières minutes face au Fidji. Il faisait de l'anti-jeu, il rendait pas la balle, il mettait du temps à se placer lors du dernier lancement. Il y a eu tout de même 2 essais non concédés au Fidji à cause de la VAR, donc possiblement 14 points au moins. Il y a eu pas mal de chances du côté des Gallois. 4 essais pour les Fidjiens tout de même. Donc les Gallois étaient à la rue aussi. En fin de match, ils se sont imposés au finish. C'était un match extrêmement équilibré.
En tout cas, je pense que les Fidjiens ont montré ce pourquoi il faudrait, enfin, là où il faut appuyer pour faire mal aux Gallois. C'est-à-dire jouer. Tout simplement jouer. Pas rester sur du combat pur avec les packs. Mais on sent qu'aussi que le Pidja, c'est une nation, enfin, en tout cas, cette sélection-là, qui a des doutes. Et que si on plante là où ça fait mal, ça peut être, on le voit avec le retour de Warren Gatland, qui est entraîneur historique, le sélectionneur qui est revenu en début d'année, justement, du fait des mauvais résultats actuels et de la mauvaise forme du Pays de Galles. Donc si le Portugal arrive tout de suite à mettre le doute et pourquoi pas marquer tout de suite en premier, encore comme hier, l'Uruguay face à la France avec le premier essai, il était uruguayen, peut-être que là, oui, ça va faire converger les têtes du Pays de Galles. Et je rappelle surtout qu'il y a pas mal de joueurs titulaires, que ce soit devant avec Gareth Thomas, Aaron Wainwright ou Dan Biggar, vraiment peut-être comme ça des noms qui ne parlent pas aux gens, mais en tout cas Liam Williams, l'arrière. C'est vraiment des cadres qui ne seront pas là. Et peut-être si jamais ça vacille et qu'il y a un doute qui s'installe, eux, il y aura moins d'expérience par rapport aux joueurs qui la remplacent. Donc pourquoi pas. Donc moi j'ai envie d'y croire. Même si pour moi, au fond de moi, je sais que pour moi le rendez-vous sera peut-être pour le Portugal, ce sera quand même face aux Fidji. Qui vont tout donner. On sait que clairement les Fidji sont une Coupe du Monde. À la fin de la compétition, ils seront quand même un peu carbo parce que c'est une équipe qui a tellement du cœur et qui donne tellement de tout à 100%. Je me dis que peut-être le Fidji-Portugal, ça peut être en fin de compte cette surprise-là que le Portugal attend.
Plus qu'avec la Géorgie?
Ouais, parce que c'est juste parce que bon là, c'est l'expert qui parle. C'est que la Géorgie, déjà, c'est un très gros pack d'avant et c'est pas que le pack titulaire. Ils ont vraiment une capacité là vraiment à imposer le défi physique avec cette densité là, que ce soit avec les remplaçants ou les titulaires. Et le Portugal l'a appris à ses dépens souvent ces dernières années, que souvent sur une heure de jeu, ça rivalise, mais dès qu'il faut commencer à faire rentrer les remplaçants et notamment devant, face à l'énergie, ça coince. Donc à moi qui me fasse mentir, ça je le demande de tout mon cœur qui me fasse mentir, mais je sais que par rapport aux dernières confrontations, oui, c'est parce que là le Portugal, en l'occurrence, connaît très bien la Géorgie, c'est à la limite l'adversaire qui connaissent le plus, et savent très bien que des fois sur certains armes égales, sur les équipes titulaires, ça rivalise, mais dès qu'après pour commencer à faire du turnover et à faire rentrer les remplaçants, là c'est un peu plus compliqué. Alors que les Fidji, eux aussi, bon, il y a beaucoup d'énergie et tout, mais justement du fait qu'ils sont déjà sur le 4e match. Je me dis que physiquement, peut-être que le Portugal a un coup à jouer. Ça dépend après l'Australie qui est entre deux. Parce que les Fidji, oui, vont faire la course vraiment pour essayer de se qualifier et au moins atteindre la 3e place. Et si jamais, en arrivant face au Portugal, ils n'ont plus ça à jouer, je me dis peut-être que le Portugal pourra en profiter.
Tout à l'heure, tu parlais de l'exploit possible dans ce mondial pour l'équipe du Portugal. L'exploit, ce serait quoi? Une victoire? Deux victoires?
Non, une victoire. Moi, déjà, une victoire, ce serait énorme. 6 victoires, ce serait énorme, parce que surtout quand ils sont dans un groupe, voilà, c'est comme il l'a dit très bien Patrice Agisquet, c'est à la limite le pire groupe que pouvait avoir le Portugal, c'est que face à des équipes qui, ces dernières années, ont toujours un peu douté. Le Pays de Galles, ces dernières années, ça a douté. L'Australie, ça a douté. Enfin voilà, c'est des équipes, on va dire sur le niveau actuel, ça se rivalise et c'est assez équilibré. Donc, alors que si jamais il y aurait eu une équipe comme l'Afrique du Sud, l'Irlande ou la France, qui prétend être vraiment très au-dessus des autres, ou la Nouvelle-Zélande, je me dis, voilà, il y a eu un gap. Mais là, ils se retrouvent vraiment sur un groupe très équilibré, en gros, parce que le Pays de Galles l'a prouvé. Ils ont failli perdre contre le Fidji. La Géorgie va pouvoir aussi poser problème. Ils ont déjà battu les Fidji dans leur histoire. L'Australie aussi a connu déjà des difficultés face au Pays de Galles. Bref, en gros, entre elles, déjà, ça c'est équilibré. Donc je me dis que le Portugal, forcément, c'est le groupe pour moi le plus équilibré. C'est le groupe du Portugal. Mais on sait jamais, voilà. Mais c'est pour ça, moi, l'idée du calendrier est de voir les Fidji au dernier. Pour ça, moi, dans ma logique, je me dis, voilà, peut-être, pourquoi pas. Et déjà, gagner, ce serait énorme. Après, éviter, quand même, on va le dire, éviter les culottés, les plus de 100 points, ça serait aussi pas mal, faire des matchs accrochés, un peu comme l'Uruguay hier, ou comme, voilà, comme le Fidji face au Pays de Galles, ou comme même le Chili qui a été très bien comporté face au Japon. Enfin, voilà, éviter, en tout cas, d'être comme la Roumanie face à l'Irlande, ça serait déjà pas mal.
Et on va essayer de croire à cette victoire portugaise qui serait la première de l'histoire du rugby portugais dans un mondial face aux Fidji, comme tu le dis. Une question, quelle différence entre l'équipe du Portugal 2007, d'il y a 16 ans, et de cette année 2023?
Ça passe tout simplement qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels qui connaissent l'exigence du haut niveau, qui ont connu des moments où ils... Ça jouait des titres, ça jouait les championnats pour gagner. Il y a une plus grande expérience, alors qu'à l'époque, on déplaise aux frères Uva, Bonsoir et Vachkouv, c'était vraiment plus amateur, c'était vraiment, ouais, on va dire, peut-être des avocats, des médecins qui prenaient un petit kiff entre eux, là, qui jouaient, tout simplement, et qui n'imaginaient pas forcément peut-être jouer le mondial, alors que là, vraiment, il y a plus une cohérence au niveau même de la capacité d'avoir préparé ce mondial. On sent que c'est autre chose. La préparation, elle a été plus minutieuse avec un entraîneur d'expérience comme Patrice Agisquet. Le président de la fédération, vraiment, a donné les moyens, en tout cas, pour faire en sorte que le Portugal, continue à se développer et à grandir. Et on l'a vu, il y a aussi donc la présence de l'équipe du 15 Lusitanos, qui est un peu une franchise club, qui a permis aussi un développement en tout cas plus professionnel de certains joueurs. Et je pense peut-être notamment aussi à Pelton, voilà, qui est Thomas Pelton. Donc c'est pour ça, il y a eu vraiment un côté plus professionnel dans cette préparation. C'est vraiment moins amateur. Et même s'il y a des joueurs encore qui jouent au Portugal, on sent que ensemble, ils ont réussi en tout cas à fédérer un groupe qui était vraiment prêt qui avait déjà pour mission de se qualifier, qui se sentait en capacité de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Ils l'ont fait et maintenant qu'ils y sont, ils veulent en profiter un maximum.
Tu parlais de Vachkouv, qui était d'ailleurs il y a une heure ici à l'antenne avec moi et qui nous a dit qu'il trouvait que l'équipe de 2023 était beaucoup plus douée, je le cite, Willy Dawes, que celle de 2007.
Oui, je suis correct sur ça, oui, parce que je sais qu'il y a des joueurs. Qu'on croit vraiment du potentiel et ça aussi, on va parler aussi avec Patrice Agisquet, qui à ce moment-là me disait qu'il n'allait pas continuer. Moi, je disais, mais pourquoi? Alors qu'il y a quand même du talent qui arrive, on le sent. Et le meilleur exemple, c'est Vincent Pinto, qui a que 24 ans, qui a été champion du monde avec l'équipe de France en U20. Et je me dis qu'il y a vraiment encore des choses à faire. À la limite, ça peut être les prémices de quelque chose, même si c'est clair qu'il y a une génération qui va s'arrêter entre Mike Tedger, Samuel Marquez, tous ces joueurs qui arrivent au bout peut-être d'une aventure. Mais il y en a d'autres. Il y a Nicolas Martins qui est jeune, donc il y a Raphaël Stolti, qui a 22 ans, il y a Marta qui est aussi jeune, je crois qu'il a 23 ans, Rodrigo Marta, donc il y a vraiment aussi une jeunesse qui est là et peut-être encore les prémices d'un grand développement à venir pour le Portugal. Donc c'est pour ça, j'espère que le président, s'il nous écoute sur le choix futur du prochain sélectionneur, il ne va pas se tromper, qu'il va vraiment continuer le travail accompli jusqu'à la présence, jusqu'à Patrice Lagisquet, qui, on n'oublie pas, a été fait aussi durant la période Covid. Donc c'est pour ça, je me donne beaucoup de crédit et je pense que le Portugal a encore beaucoup à donner dans les prochaines années, déjà avec un savoir-faire maintenant qui est présent et qui, cette deuxième participation, le prouve.
Le rugby a donc un beau futur au Portugal.
Je le pense, ouais, je le pense clairement. Ils ont compris maintenant que c'est, il n'y a pas que le football, il y a des générations comme ça qui montent, il y a des gens en capacité de se développer, peut-être aussi des luso descendants encore en devenir. Je crois qu'il y en a qui traînent du côté notamment du Stade français. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a encore cette capacité déjà de ne pas se couper de justement des luso descendants, d'aller chercher aussi un peu le talent extérieur, c'est profiter aussi d'un pays comme la France qui est le pays du rugby, et ça les jeunes qui plongent dedans comme Vincent Pinto, ils le voient, et donc c'est pour ça, c'est pourquoi pas décrocher quand je vois Thomas Ramos qui brille avec la France, ou quand je pense à Morgan Parra qui donc brille avec l'équipe de France, je me dis voilà, il y a des joueurs en tout cas muso-descendants qui ont brillé avec la France, pourquoi pas peut-être aussi en faire profiter le Portugal à l'avenir et continuer à grandir.
Et comme l'a souhaité il y a une heure ici même à l'antenne Vache Couve, on souhaite que dans quelques années le Portugal ce soit les 3 F et 1 R, Fado, Fatima, football et rugby.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, non, mais le Fado, après, c'est triste des fois le Fado. Donc, non, on va dire, je sais pas quoi, mais folie, furieuse, j'en sais, mais voilà. Non, plus le Fado.
En tout cas, c'est le L de Loebouche qu'il faudra crier demain pour le match Portugal-Pays de Galles à Nice à 17h45. Ma dernière question, Eric, n'aura aucun rapport avec le Portugal, mais toujours un rapport avec ce mondial. Quel est ton pronostic de vainqueur et de semi-finaliste?
Bon, déjà, je pense qu'au niveau des demi-finales, on va retrouver des grandes équipes, hein. On va pas se mentir, je pense que la France, elle en fera partie. Je vois bien aussi l'Afrique du Sud, l'Irlande, même si après, je sais que ça va se croiser. Non, l'Irlande, ça va du mal, parce que forcément, si l'Irlande croise la France, donc non, il y aura forcément l'Irlande en moins. Mais en tout cas, je sais, dans les équipes favorites, moi j'en fais clairement, c'était mes trois favoris, c'est l'Afrique du Sud, Irlande et France. Nouvelle-Zélande, un peu moins, mais vraiment, mais vu qu'Irlande et l'Afrique du Sud sont déjà dans la même poule, forcément, ça va peut-être... annulé, donc et si forcément la France va croiser l'un des deux, donc déjà il y aura un des deux qui va rester de côté. Donc,
mais donc selon toi, le match d'ouverture de ce mondial ne sera pas la finale?
Non, pour moi, cette année, les All Blacks, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est peut-être l'une des... Il y a moins de talent, il y a moins de folie qu'avant. Non, l'Afrique du Sud, j'ai...
Bon, le Portugal peut s'en occuper, alors c'est bon.
Ouais. Le plus tard possible, mais ouais, pourquoi pas. Mais non, franchement, là, moi, bon, France et Afrique du Sud, à choisir, ça sera un des deux.
Très bien, et si c'est le cas, on te rappelle et on te paye un verre.
J'espère bien.
Merci beaucoup, Eric, d'avoir dédié de ton temps pour répondre à nos questions ici sur Radio Alpha.
Ça marche.
Une excellente journée.
À toi aussi.